Vous écoutez France Musique.
Le matin des musiciens, Arnaud Merlin.
Aujourd'hui, jazz et musique traditionnelle avec Jean-Christophe Chollet. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 95e émission du Matin des musiciens jazz du mardi. Aujourd'hui, nous allons naviguer entre deux univers qui se fréquentent sans toujours se comprendre, le jazz et les musiques traditionnelles. Si l'on admet que le jazz lui-même n'est pas une musique traditionnelle, même s'il possède une importante tradition, il n'en reste pas moins qu'il échange depuis toujours avec les pratiques populaires qu'il côtoie, du creuset multiculturel de la Nouvelle-Orléans jusqu'à notre époque mondialisée. Si les emprunts aux musiques traditionnelles sont nombreux dès les premiers balbutiements du jazz, il faut attendre l'ère du bebop avec Dizzy Gillespie qui voulut se glisser dans la peau des percussionnistes cubains pour voir un jazzman témoigner d'un profond respect à leur encontre. Dès lors, les marques d'intérêt des jazzmen envers les musiques traditionnelles se multiplient en version latine avec Gil Evans et Miles Davis hier ou Vince Mendoza aujourd'hui, en remontant le cours de l'Americana, tels Charlie Haden et Bill Carothers, ou en ouvrant leurs oreilles aux pratiques des cinq continents. Dave Douglas rejoint ainsi les préoccupations rythmiques de Boyan Zedd en territoire balkanique, tandis que le batteur Karim Ziad et le guitariste Nguyen Le se souviennent de leurs origines algériennes et vietnamiennes, que les peaux de Simon Goubert croisent la kora d'Ablaï Sissoko, que Ronan Guilfoyle revisite le reel irlandais et que Michel Benita renoue avec l'amour du folk. Inspiré tantôt par la danse, à l'instar de Mathias Roeg, tantôt par la mélodie, comme à Eric Hensick ou Jean-Marie Machado, les musiciens de jazz d'aujourd'hui aiment aussi y mêler leurs connaissances du répertoire classique et contemporain. C'est la voix qu'a choisi notre invité de ce matin, le pianiste et compositeur Jean-Christophe Chollet. Il pratique de longue date ses allers-retours entre les traditions afin de nourrir son propre monde. Bonjour Jean-Christophe Chollet.
Bonjour Arnaud.
Comment avez-vous commencé à vous intéresser aux musiques traditionnelles ?
C'est le hasard, à l'occasion d'un projet qui a eu lieu en 1996, où j'ai eu la chance de collaborer avec Mathias Roeg.
Qui était le fondateur du Vienna Art Orchestra, un musicien suisse, mais depuis longtemps installé en Autriche.
À Vienne, oui. Donc l'idée, c'était de trouver un vecteur commun pour écrire une pièce. Et le choix, en discutant, s'est porté sur les Alpes, parce que c'est ce qui était commun à nos deux origines. Moi, en tant que Français, nous avons des Alpes en France. Lui, en tant que Suisse et Autrichien, il avait même deux fois les Alpes à son actif. Donc, on a souhaité tout bêtement partager ces montagnes en deux. Je me suis occupé des Alpes françaises et italiennes. Il s'est occupé des Alpes suisses et autrichiennes. Et bien sûr, quand je dis il s'en est occupé, nous sommes allés glaner les musiques existantes, traditionnelles, comme prétexte, je dirais, pour recomposer un programme qui, à l'époque, s'intitulait donc, La Suite Alpestre, tout simplement.
On reviendra sur la démarche de Mathias Roeg et puis on finira cette émission avec votre démarche particulière. Mais évidemment, on va faire un petit tour d'horizon en remontant dans le temps. Une des premières manifestations de musiciens de jazz qui s'intéressent aux musiques traditionnelles, c'est le grand orchestre de Dizzy Gillespie qui va collaborer avec un percussionniste cubain. Il s'appelle Chano Pozzo. Thank you. C'était le 30 décembre 1947 à New York, le big band de Dizzy Gillespie dans Manteca, un titre co-signé par le trompettiste et chef d'orchestre Dizzy Gillespie et le percussionniste cubain Chano Pozo González. Alors qu'est-ce qu'on a entendu ici, Jean-Christophe Chollet ?
On est au début, je pense, des influences, des partages, des rencontres, en fait avec une certaine économie de moyens, je dirais. Et on a simplement l'apport d'un percussionniste, on va dire, qui va montrer, qui va apporter au reste de l'orchestre sa culture, tout simplement. Le jazz est toujours prédominant, mais on a cet apport instrumental de la pratique de la musique latino-américaine, avec ce rapport aussi à la danse, qui est beaucoup plus marqué par la musique latino-américaine que la musique de jazz de l'époque, même si on sait qu'on l'a dansé aussi avec le bebop, par exemple. Mais je dirais que là, on a vraiment cette sensation traditionnelle plus forte que, évidemment, dans une musique qui serait plus jazz ou plus bebop de l'époque.
Et ce qui intéressait Dizzy Gillespie, c'était de transmettre ce savoir qu'il tenait lui-même de Chano Pozo et de le transmettre à sa section rythmique. Ici, c'était Al McKibbon à la contrebasse, Kenny Clark à la batterie. Mais effectivement, tous les batteurs et tous les contrebassistes de jazz n'étaient pas forcément perméables à cette autre manière de marquer la rythmique. Donc il fallait se mettre dans une condition un petit peu différente. C'est ce qu'on va voir au long de cette émission, au fur et à mesure que les années passent, dans les années 50, 60, 70 et jusqu'à aujourd'hui. Il y a un disque qui est resté très célèbre, co-signé par l'arrangeur Gil Evans et le trompettiste Miles Davis. Ça s'appelle Sketches of Spain, et ces esquisses de musique espagnole, en fait, sont toutes référencées. Tous les titres de ce disque ont une source qui provenait assez souvent de disques de collectage que Gil Evans possédait. On en a parlé dans cette émission en compagnie de Laurent Cuny il y a quelques temps. Nous avions décrypté l'ensemble de ces sources. Une qui est un petit peu moins connue et peut-être un petit peu plus lointaine, c'est tout simplement dans ce Song of Our Country. L'origine vient d'une pièce de Villa-Lobos, du chant de notre terre, tirée d'une de ses Maquinas Brasileiras. On va écouter ce Song of Our Country sur le disque Sketches of Spain de Miles Davis en 1960. Thank you. Song of Our Country. C'est signé Gil Evans sur la pochette du disque que l'on entendait ici interprété par Miles Davis, bien sûr, en 1960. C'est un extrait de l'album Sketches of Spain. Mais pourtant, ce n'est pas vraiment du Gil Evans, Jean-Christophe Chalet.
Non, c'est la petite différence ou la grosse différence avec le titre précédent de Gillespie, c'est que là... On a la convergence de trois entités, bien entendu toujours le jazz, la musique traditionnelle, mais aussi la musique classique.
Avec Villa-Lobos qui est entre les deux, c'est lui voilà. Qui écrit cette mélodie.
Et c'est vrai qu'on peut se rappeler aussi dans ce contexte de musiciens comme Bartok, Chopin ou Dvorak qui se sont aussi nourris, enfin on nourrit leur répertoire.
Des mélodies populaires.
Des mélodies ouais. populaires, donc on se retrouve un petit peu dans ce cas de figure. Et on est dans un contexte plus écrit, bien entendu, même si c'était évidemment écrit pour le Big Band de Gillespie, mais où le sens harmonique est plus proche de la tradition, donc de la culture de laquelle on se rapproche, alors que dans l'exemple précédent, on était plus sur le rythme, tout simplement, hein, sur la notion rythmique, la notion...
Et une écriture contournée, virtuose à la bebop. Ouais.
Voilà, ouais. C'est ça.
Alors ici, ça s'appelait Sketches of Spain, ce disque enregistré en 1960 par Miles Davis sur ses arrangements de Gil Evans. On va voir se développer toute une vogue de l'hispanisme. Et dans l'hispanisme, il y a bien sûr le rapport au flamenco et peut-être à certaines gammes particulières pour expliquer, pour que les auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit, puisqu'il en a un piano ici au studio 119. Jean-Christophe, vous allez rejoindre le clavier du piano et nous donner quelques petits exemples à l'instrument. Alors tout d'abord, ce qu'on appelle le phrygien, si vous visualisez le clavier d'un piano, au lieu de commencer sur un do, vous allez commencer votre gamme sur un mi. Et si vous montez sans toucher aux touches noires, vous allez trouver le mode phrygien.
Mais bien entendu, on pourrait partir du do.
Et que vous transposez les intervalles, c'est-à-dire que vous respectez les demi-tons et les tons à la même place que ce que vous avez à partir du mi, ça va donner la gamme phrygienne à partir d'une autre note. Donc vous avez tout d'abord un demi-ton, puis trois tons, puis un demi-ton, puis deux tons à la suite, c'est ça?
Alors, on a une tierce mineure. La particularité, ce qu'on appelle la note caractéristique du mode en phrygien, au lieu d'avoir une seconde majeure, on a une seconde mineure. C'est ce qui donne la caractéristique du mode. Mineur. Sixte mineur. Une septième mineure et non pas une sensible comme on trouve dans l'harmonie, je dirais, classique.
Cette gamme sonne vraiment de manière très particulière. On la retrouve dans cette tradition hispanique, en particulier dans le flamenco, mais il y a une variante.
Alors la variante, c'est la tierce majeure. Voilà, qui remplace donc...
On a donc un intervalle particulier entre la seconde mineure et la tierce majeure.
Voilà.
C'est une seconde augmentée, ce qui sonne de manière un peu particulière.
Alors, je peux vous montrer quelques harmonies dans le mode pour voir un peu le caractère des couleurs, on va dire.
Et bien sûr, Jean-Christophe Chollet, on va développer tout cela à travers les années. Un certain nombre d'artistes, de musiciens de jazz ou de musiciens de flamenco vont faire cette démarche de mélanger cette tradition avec des musiciens, avec des musiques de jazz. C'est le cas notamment de Vince Mendoza, que l'on écoute ici dans Angeles Negros.
Del barranco, la nava barbacete,
Vince Mendoza dirige ici l'orchestre Métropole dans cet Angeles Negros de José Ortega Heredia avec les voix de Rafael de Urtrera, de Eva de Dios, la guitare de Daniel Mendes, le cajón de Udo Demand, les palmas, autrement dit les mains frappées l'une contre l'autre de Arturo Ramón, la danse de Daniel Navarro. C'était en 2008, Jean-Christophe Chollet, on a changé un peu d'époque ici dans ce rapport jazz et musique traditionnelle.
Là, on a vraiment des acteurs des musiques traditionnelles, enfin oui. Des acteurs, des musiciens, des chanteurs, des danseurs qui sont invités sur le projet et qui, à la différence des deux extraits précédents, les Dizzy Gillespie et de Miles, ils sont plus nombreux, je dirais, ils sont en masse dans l'orchestre et ce qui fait que ça sonne de plus en plus d'une certaine manière traditionnelle. Enfin, on entend plus la tradition. Après, l'orfèvrerie de l'écriture de Mendoza rend la chose très délicate.
Oui, parce que lui, c'est un vrai arrangeur de jazz, c'est pas un musicien de flamenco à l'origine, Vince Mendoza.
Non, mais ouais. Curieusement, et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais il a fait pas mal de projets autour des musiques espagnoles, enfin hispanisantes, et il s'est beaucoup inspiré de ce territoire, en tout cas, pour ses projets.
Oui, le premier s'appelait Jazz Spagna, ce qui était déjà tout un programme. Alors, on va retourner aux États-Unis, si vous voulez bien, Jean-Christophe Chollet, puisque, bien sûr, sur le territoire américain, il y a des musiques d'essence traditionnelle qui vont rencontrer le jazz, et elles vont être prises elles-mêmes par des musiciens de jazz. Par exemple, le pianiste Hank Jones et le contrebassiste Charlie Haden, qui jouent ici un Negro Spiritual, qui a été composé au moment de l'abolition de l'esclavage, peut-être même avant. Ça s'appelle « Sometimes I feel like a motherless child ». Contre sommet ici entre le piano de Hank Jones et la contrebasse de Charlie Haden sur ce Sometimes I Feel Like a Motherless Child, une manière très sobre de jouer la tradition, Jean-Christophe Chollet.
Au-delà d'être sobre, je dirais classieuse et sans débordement d'une certaine manière, et on entend le grand art des deux interprètes, mais aussi cette appropriation qui n'en est finalement pas. Quasiment pas une, C'est simplement comment jouer une pièce du répertoire traditionnel américain en toute simplicité et sans artifice particulier. Simplement, je pense que quand ces deux musiciens jouent leurs instruments, c'est déjà magique, déjà quoi qu'il se passe, même si les choses sont très simples.
Comment elle marche cette pièce, ce Negro Spiritual, il est construit comment ?
Alors, curieusement, c'est une forme un peu inhabituelle. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait que 10 mesures.
Oui, d'habitude, on procède ou bien par groupe de 4 mesures ou de 8 mesures.
Voilà, mais on est sur 4,
10 mesures, c'est rare, ça arrive.
16. Hein, mais... On sait que le blues, c'est sur 12. Ouais. Mais j'aurais tendance à dire qu'il y a quand même un vrai rapport avec le blues, déjà, dans cette mélodie. Ils n'ont pas changé l'harmonie, ils ont peut-être enrichi légèrement, mais les mouvements harmoniques n'ont pas bougé. Et on a effectivement les mouvements que l'on retrouve dans le blues.
C'est-à-dire ?
Le rapport entre le premier degré et le quatrième degré. Revenir sur le premier et puis rentrer à la maison par la dominante, donc ce qui est très habituel. Mais ça ne date pas du jazz. Donc si je vous joue un peu la mélodie et que je vous fais entendre les degrés... On va vers le quatrième. On retourne vers le premier. On va se balader autour du cinquième. Cinquième et le premier. Et tout ça en 10 mesures. Alors, est-ce que c'est le blues qui a inspiré la mélodie traditionnelle ou l'inverse ? Je ne pourrais pas le dire.
En tout cas, on est dans la même famille.
Voilà, exactement.
Alors, dans la famille de ces chansons populaires, par exemple des chansons que chantaient les minstrels à la fin du 19e siècle, aux États-Unis, on trouve quelques chansons qui sont restées inscrites au répertoire encore aujourd'hui. Et certains musiciens de jazz jouent avec, comme Bill Carothers. Alors, Bill Carothers, on n'en dira pas davantage, puisqu'on a consacré une émission à ce musicien la semaine dernière avec Guillaume de Chassy. On va tout de même en écouter un extrait sur cette chanson traditionnelle « Oh Susanna ». Et là, la démarche est vraiment différente de celle que l'on vient d'entendre avec Charlie Haddon et Hank Jones, Jean-Christophe Chollet.
Alors, comme je disais, Hank Jones, on ne bouscule pas la tradition, en tout cas très très peu, alors que... Une fois de plus, souvent, la notion de prétexte va revenir dans l'émission, sans doute, mais Bill Carothers va s'en servir pour se propulser dans un autre univers, on va dire, musical.
Ouais. Avec Peg Carothers, son épouse au chant, et le violoncelliste Matt Turner. Et Bill Carothers se joue du piano d'une manière un peu particulière, puisqu'il fait des percussions dans le piano. Oh Susanna de Stephen Collins Foster. Bill Carothers a consacré un disque entier aux compositions de Stephen Collins Foster, qui était un compositeur du milieu du 19e siècle. Et cette chanson est restée très connue dans le répertoire américain. On entendait donc Bill Carothers ici avec la voix de Peg Carothers et le violoncelle de Matt Turner. C'était en 2008. Alors certains Américains, évidemment, s'intéressent à d'autres traditions qui ne viennent pas de leur pays d'origine, mais ils sont ouverts sur la culture européenne, en particulier, par exemple, sur la musique dite des Balkans. Enfin, le trompettiste Dave Douglas s'est beaucoup penché sur cette tradition. Alors là, on trouve des rythmes impairs, mais aussi un phrasé très particulier, Jean-Christophe Chollet.
Alors, dans la pièce qui va suivre, oui, c'est intéressant de voir comment Dave Douglas se concentre dans son jeu sur la notion de phrasé, essayant d'être au plus proche des modes de jeu propres aux musiques de l'Est. Oui. Donc tout ce qui est articulation, phrasé, ponctuation, inflexion du son, notamment avec la trompette, il y a pas mal de choses possibles, bien entendu.
Alors il est ici en duo avec l'accordoniste Guy Kluszewczyk, et nous l'écoutons dans ce Facing West. On va laisser les micros ouverts pour montrer à nos auditeurs comment ça se passe sur le plan de la rythmique. C'est un rythme à 11 temps, 6 temps plus 5 temps.
Trois, quatre, cinq, six, un, deux, trois, quatre, cinq, un, deux, trois, quatre, cinq, six, un, deux, trois, quatre, cinq, un, deux, trois, quatre, cinq, six, un, deux, trois, quatre, cinq.
Facing West, le trompettiste Dave Douglas et l'accordoniste Guy Kluschewczyk en 1997, une manière de regarder de l'autre côté de l'Atlantique pour ce musicien américain du côté des Balkans. Alors évidemment, on connaît aussi des musiciens de jazz qui, eux, sont originaires de ces pays, comme le pianiste Bojan Zulfikarpacic, mieux connu sous le pseudonyme de Bojan Z, qui est né lui-même à Belgrade et qui s'est installé en France depuis de nombreuses années. Mais il a importé, d'une certaine manière, cette musique dans un contexte de jazz, Jean-Christophe.
Oui, c'est la grande différence avec tout ce qu'on a pu écouter jusqu'à maintenant. C'est que là, on a un musicien qui arrive en France, mais qui vient d'un pays où il y a une forte culture de musique traditionnelle et qui importe sa musique et qui va la faire partager avec des musiciens français. François Merville, Marc Buron-Fos, je crois.
Et puis Julien Louraud.
Et Julien Louraud, bien entendu. C'était une belle surprise de voir ce qu'il nous a apporté ici, enfin ce qu'il a apporté aux musiciens avec qui il a pu faire ses différents projets depuis.
Et la composition de Bojan s'intitule Multi Don Culti. On peut aussi y voir un hommage au trompettiste Don Cherry qui venait de disparaître au moment de l'enregistrement de ce disque réalisé en 1995. Don Cherry étant lui aussi un des pionniers du mélange entre le jazz et les musiques traditionnelles. Kulti, Danu Kulti, une composition de Bojan Zulfikarpašić, ici en compagnie de Julien Loureau, saxophone soprano, de Marc Buronfos à la contrebasse et de François Merville à la batterie. C'était en 1995 une manière pour des musiciens de jazz de s'approprier une culture venue d'ailleurs, évidemment par le biais de ce pianiste qui lui possédait la double culture, Jean-Christophe Solet. C'est là tout l'intérêt. Et on va voir se multiplier ce type de projet dans les années 90 et 2000 jusqu'à aujourd'hui.
Et ça perdure, et j'espère que ce n'est pas fini, avec notamment le batteur Karim Ziad, par exemple.
Qu'on va écouter, lui, il est d'origine algérienne.
Ouais. Il y a également Nguyen Lee.
Et le guitariste vietnamien d'origine.
Voilà. Et on s'aperçoit que ces trois musiciens-là se retrouvent à jouer très souvent ensemble, finalement, en tout cas partager des projets.
Oui, parce que la musique, a priori, d'origine d'ex-Yougoslavie, du Vietnam et d'Algérie, n'ont pas forcément des points communs.
Non, je pense que le point commun,
c'est la démarche
qu'ils ont. Donc, ils se retrouvent avec plaisir, a priori, et régulièrement, on les voit se croiser sur des projets discographiques ou en concert.
On écoute un extrait d'un des projets du batteur Karim Ziad, où ici on retrouve tout cet art de la question et de la réponse, cet échange, ce côté comme ça responsorial dans la musique du Maghreb, et puis bien sûr cette extraordinaire culture rythmique de Karim Ziad. Un extrait de Amalia, un enregistrement réalisé en 2000 autour du batteur d'origine algérienne Karim Ziad, avec notamment le formidable bassiste Linley Mart. Jean-Christophe Cholet, ici on est un peu à la limite, on est vraiment dans la culture de tradition. Est-ce qu'on s'éloigne pas un petit peu de la musique de jazz de certaines
manières ? Alors oui, on quitte un peu le jazz, j'aurais tendance à dire qu'on est à la frontière de la musique world.
Alors on a cité Bojan Zed, le pianiste, on vient d'écouter Karim Ziad, le batteur. Le troisième de cette confrérie d'amis, c'est le guitariste Nguyen Lee qui, lui, s'est fait une place dans le jazz en France et en Europe dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, il est parti à la quête de ses propres racines parentales du côté du Vietnam. Et il en a fait plusieurs enregistrements, notamment celui-ci réalisé en 1995 avec la chanteuse Huong Tan. On écoute cette mélodie traditionnelle arrangée par Nguyen Lee et Dominique Barker. Trang Com, cela signifie le tambour de riz. Comme, comme le tambour de riz, adapté par Nguyen Le et Dominique Barker, et ici la voix de Wong Tan, un enregistrement réalisé en 1995. Jean-Christophe Chollet, ici, c'est une démarche tout à fait singulière que celle de Nguyen Le, qui va beaucoup investir dans cette rencontre entre le jazz et la musique traditionnelle.
Ouais, je pense que ça lui tient réellement à cœur. On entend la qualité de la réalisation, de la production, avec les talents qu'on lui connaît d'arrangeur, de concepteur très précis et exigeant dans ses choix, tant au niveau des options de casting que des sons et des scénarios. On va dire, c'est tout à l'heure, on était à la frontière d'une musique un peu world, sans vouloir
mettre des étiquettes. Mettre des étiquettes,
mais là, on est vers quelque chose d'un petit peu pop, d'une certaine manière, mais le bon côté de la pop.
Alors, pour continuer ce petit tour du monde des rencontres entre les musiques traditionnelles et les musiciens de jazz, on peut aussi avoir des démarches beaucoup moins produites, si l'on va dans ce sens-là. C'est la démarche du batteur Simon Goubert lorsqu'en Afrique, il effectue une sorte de retour aux sources, on pourrait dire, avec le joueur de kora Ablaï Sissoko. Là, on n'est pas dans la production.
Non, on est dans une rencontre que je dirais plus tribale, finalement, entre un musicien d'origine africaine et un pur batteur de jazz, et l'enregistrement à Dakar démontre sans doute le besoin de s'immerger dans l'ambiance du pays, j'imagine.
La belle rencontre sur place à Dakar entre le batteur Simon Goubert et le joueur de kora Ablaï Sissoko, ça s'appelait Caméléon, c'est un enregistrement relativement récent. Jean-Christophe Chollet, si on revient du côté de l'Europe, il y a des musiques du nord de l'Europe, des îles qui ont influencé aussi les musiques de jazz, la musique irlandaise, la musique écossaise, se retrouve dans le jazz américain. Alors, on ne connaît pas très bien en France les musiciens de jazz irlandais.
Alors, j'ai pensé à un musicien que j'ai eu la chance de rencontrer un peu par hasard en Suisse, qui n'a rien à voir avec son pays d'origine, qui est l'Irlande, qui s'appelle Ronan Guilfoyle, qui utilise ici un reel.
Le reel irlandais, c'est comme une chanson, comme une balade, comme ce qu'on appelle l'anatole aussi. C'est une forme traditionnelle de cette musique irlandaise, comme la gigue aussi.
Comme une danse, sans doute, aussi à l'origine, j'imagine.
Ronan Guilfoyle, c'est un musicien de jazz.
C'est un musicien de jazz, directeur de l'école de jazz de Dublin aussi. Là, on a un rapport à la danse, le reel irlandais. Et dans cet extrait, on a une conception rythmique, une construction beaucoup plus complexe que ce qu'on a pu entendre auparavant, où il est compositeur. Il flirte avec, parfois, bon, pas dans l'œuvre qu'on va écouter, mais il flirte parfois avec la musique contemporaine dans son travail de composition. Là, il a ajouté le son du Uilean Pipe, sorte de cornemuse irlandaise, qui relie l'ensemble à la musique traditionnelle donc, du pays.
La démarche du bassiste Ranan Guilfoyle, le bassiste irlandais, qui faisait appel ici à Julian Papp, autrement dit à la cornemuse de Martin Nolan et au saxophone de Julian Argyles. Entre autres, c'est un enregistrement réalisé à Dublin en 2001, une manière d'intégrer la culture traditionnelle de la musique irlandaise dans un contexte de groupe de jazz. Michel Benita, le contrebassiste français, qui lui est très marqué par la musique folk américaine, est retourné aux sources en allant, lui, du côté de la musique traditionnelle écossaise, mais il en fait un usage tout à fait différent de ce qu'on vient d'entendre, Jean-Christophe.
Alors là, c'est effectivement, on n'est pas très loin, la démarche est proche, parce que c'est l'Écosse, l'Irlande, on a compris, tout cela venait. C'est une appropriation un petit peu opposée, dans le sens où on n'est plus sur une préoccupation compositionnelle et de reconstruction. Là, à l'inverse, on est plutôt question d'une version dans un minimalisme évident. Chacun expose le thème, c'est la sonorité de chaque soliste qui prévaut. Sur la reconstruction d'une nouvelle pièce et non pas la réflexion sur comment on peut faire une déviation, je dirais, d'une pièce traditionnelle.
Avec une rencontre tout à fait intéressante sur le plan des nationalités des musiciens, il y a, aux côtés du contrebassiste français Michel Benita, la joueuse de koto japonaise Mieko Miyazaki, le trompettiste Mathieu Michel qui est
suisse,
c'est ça.
Je le vois cette semaine pour enregistrer un nouvel album d'ailleurs.
Et le guitariste scandinave Eivin Arset.
Mm-hmm.
Oran Nan Raiders, un traditionnel écossais repris par le contrebassiste Michel Benita avec Mieko Miyazaki, Koto, Eivin Arset, guitare et Mathieu Michel à la trompette. Alors avec Mathieu Michel, on revient vers la Suisse finalement, Jean-Christophe Chollet, un territoire que vous connaissez assez bien puisque vous y faisiez allusion tout à l'heure. Vous avez œuvré aux côtés de Matthias Rueg, c'est lui qu'on va retrouver maintenant. Lui, il s'est beaucoup penché sur ses musiques d'origine traditionnelle et sur ses danses traditionnelles. Et avant la valse, il y avait le Ländler, une danse à trois temps.
C'est peut-être de là que lui était venue l'idée de la suite alpestre, j'en sais rien. Mais il s'était déjà nourri de la tradition, en tout cas des danses germaniques ou à la Suisse autrichienne. Là, on est dans un rapport à la danse. On est sur une appropriation un peu plus chaotique dans sa réalisation, dans son choix. J'entends par chaotique plutôt plus burlesque. Donc c'est une appropriation un peu particulière. Un petit peu rigolote, quoi.
Avec quelques solistes du Vienna Art Orchestra et puis cinq voix, c'est le Vienna Art Orchestra N Voices et ça s'appelle Ländler für fünf Stimmen, autrement dit Ländler pour cinq voix. Fünf Stimmen, Ländler pour cinq voix de Matthias Rueg par le Vienna Art Orchestra. Et les voix, il y avait aussi l'accordéon de Hans Hassler. C'était en 1986 et Matthias Rueg a multiplié les expériences sur ses musiques, comme il le fait aussi sur du répertoire classique ou sur d'autres répertoires. C'est une démarche très commune chez ce musicien. Alors, vous-même, Jean-Christophe Chollet, vous avez procédé depuis une quinzaine d'années à un certain nombre d'adaptations de répertoires traditionnels. Est-ce que vous allez séjourner dans le pays ? Est-ce que vous rencontrez des musiciens ?
Il y a une imprégnation qui se passe par un temps d'écoute des musiques. Alors, pas que les musiques traditionnelles, d'ailleurs. Quand j'ai travaillé sur la musique d'Angleterre, j'ai écouté les Beatles, j'ai écouté Purcell, j'ai écouté Britten, j'ai écouté de la musique traditionnelle irlandaise. Donc, en fait, toute la culture très, très générale, en fait, de ces pays. Pour les Balkans, la même chose, la musique traditionnelle, des compositeurs classiques de ces pays-là. Je dirais que c'est un grand livre ouvert. Pendant, je sais pas, deux mois, j'écoute. Je ne touche pas à la composition du tout. Et à un moment donné, je referme le grand livre, je laisse mûrir. C'est une recette, en fait. Et après, je compose à partir de ce qui ressort, quoi, de ma mémoire, en fait.
Par imprégnation, mais surtout avec vos moyens à vous.
Voilà, exactement.
Et vous ne retournez pas vers la documentation antérieure.
Non, parce que je ne suis pas spécialiste des musiques traditionnelles. Et ce n'est pas ma spécialité.
Ce n'est pas votre objectif.
Non, ce n'est pas mon objectif. C'est simplement, comme je l'ai utilisé tout à l'heure, ce mot. C'est un prétexte, c'est un alibi pour composer. Ça m'aide à la composition. De choisir une thématique, un sujet, donc je m'en imprègne par la manière la meilleure qu'il soit. Donc quand il s'agit de s'imprégner de musique, je pense que le plus simple, c'est de l'écouter. Mm-hmm. Mais ça pourrait être sur de l'image, sur plein d'autres, je dirais, prétextes qu'on pourrait imaginer.
Alors par exemple, pour ce disque Slavonic Tone, vous avez relevé des mélodies traditionnelles et puis vous en avez écrites d'autres qui ne sont pas du tout traditionnelles, qui sont des pures inventions de votre part.
Voilà, il y a deux reprises, enfin deux arrangements sur deux mélodies des voix bulgares qui sont interprétées par les voix bulgares. Tout le reste, ce ne sont que des musiques, je dirais, imaginaires, quoi, qui sont ressorties de ce mûrissement après imprégnation de la musique du pays.
Ça s'appelle Doudouk. Ça s'appelle Doudouk. C'est une composition de Jean-Christophe Chollet, mon invité ce matin. Il était au piano ici, aux côtés du trompettiste Patrice Bailly et de l'accordoniste David Venetucci, entre autres. Alors, on s'y croirait presque, mais ce n'est pas une mélodie traditionnelle.
Non, c'est une simple composition, je dirais, voilà, inspirée par ce grand livre ouvert, comme je dis. Et on pourrait sans doute s'y méprendre et se dire, oui, effectivement, c'est une mélodie traditionnelle, mais pas du tout.
Alors, parmi les pianistes, compositeurs, chefs d'orchestre de votre génération, en France, il y a aussi quelqu'un comme Jean-Marie Machado qui fait souvent référence à la musique traditionnelle. Alors lui, c'est un peu particulier parce qu'on peut penser que ses origines, il est né à Tanger, il a été élevé au Maroc, d'origine espagnole et portugaise. Évidemment, ça a pu marquer son imaginaire, mais il ne s'est pas déclaré tout de suite dans ce registre, Jean-Marie Machado. Il a mis quelques années avant de retourner à ses sources, un peu comme Nguyen Le.
Je pense que Jean-Marie, on a un petit peu le même cheminement. Il fait son trio, il a sa grande formation, je fais un peu la même chose. Après, on a des formations à géométrie variable. Je pense qu'on est un petit peu sur la même idée de travail. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'on le retrouve dans des projets inspirés par le fado et voilà, la musique plus de son pays.
Précisément, ici, c'est une démarche qui fait appel au fado et en particulier à la figure d'Amalia Rodriguez. Thank you. Prado, Amalia, Jean-Marie Machado au piano, Jean-Philippe Viret à la contrebasse et Jacques Mailleux à la batterie. Une manière de se souvenir du fado et du répertoire d'Amalia Rodriguez dans les années 50. Évidemment, ici repris beaucoup plus près de nous, c'était en 2006 par le trio de Jean-Marie Machado. Jean-Christophe Chollet, on a fait allusion à votre propre démarche avec le répertoire Slavonic Tone, avec Doudouk, il y a quelques minutes. Votre camarade Guillaume de Chassy, que nous accueillions dans cette émission de la semaine dernière à propos de Bill Carothers. Alors lui, il a repris un traditionnel bulgare que vous aviez adapté. Il l'a intégré en quelque sorte à un concerto que vous avez vous-même orchestré et dirigé. Alors là, c'est encore une autre démarche.
Oui, alors je pense que c'est le hasard, enfin le hasard peut-être que cette pièce qui s'intitule Cedati Kuping Bella Seitsa est une pièce qui séduit beaucoup de musiciens, je pense même de mémoire que Bojan Zed l'a reprise aussi. Ouais. Donc voilà, cette pièce va devenir un standard de jazz finalement.
Alors que c'est un traditionnel bulgare.
Voilà, exactement, qui est, oui, interprété par les voix bulgares, ouais. Tout simplement. Guillaume m'a confié, je dirais, l'orchestration et la direction, donc j'étais obligé de tout rechanger. Enfin, bien entendu, enfin, c'était le but de m'adapter. Je pense que la particularité là, de cette pièce, c'est ce traitement avec un orchestre symphonique. Enfin, ce n'est pas un véritable orchestre symphonique, c'est un orchestre qu'on appelle format Mozart.
Pas c'est l'orchestre Dijon-Bourgogne.
Mais je dirais que dans l'instrumentation, c'est un format Mozart identique à celui du 23e concerto de Mozart.
Alors comment vous avez procédé là? Vous avez repris la mélodie et puis vous avez fait un travail d'orchestrateur.
Dans la mesure où je fais de l'orchestration pour ce projet, le scénario, la conduite, elle est dictée par Guillaume, qui est le soliste, mais qui est aussi le concepteur de l'idée musicale. C'est-à-dire que le scénario, je dirais la forme, le déroulement, c'est lui qui me le propose. Après, comment je réponds à ses attentes?
Le disque vient de paraître chez Bijazz, ça s'appelle Traversée. Guillaume de Chassy au piano et l'orchestre Dijon-Bourgogne que vous dirigez et vous avez signé bien sûr l'orchestration vous-même, Jean-Christophe Chollet. On écoute un extrait.
Thank you.
Un extrait du disque Traversé que vient d'enregistrer Guillaume de Chassy, le pianiste, avec l'orchestre Dijon-Bourgogne. Jean-Christophe Chaudet, vous avez signé l'orchestration et vous dirigez cet orchestre. Ici, c'était sur un traditionnel bulgare. Alors, jusqu'ici, on a vu des projets essentiellement d'essence individuelle. Là, c'était une collaboration un petit peu particulière. Évidemment, à chaque fois, il y a un initiateur dans cette rencontre entre la musique traditionnelle et le jazz. Ou alors il y a une rencontre comme celle d'Ablaï Sissoko avec Simon Goubert, où on peut penser effectivement que le chemin est partagé, chacun fait la moitié du sentier vers l'autre. C'est peut-être pas facile toujours de travailler entre musiciens traditionnels et musiciens de jazz à égalité, Jean-Christophe Chaudet.
C'est effectivement pas simple. À la fois, c'est pas facile non plus de travailler tout seul, j'aurais tendance à dire. C'est-à-dire que... Il y a un moment où le principe habituel qui consiste à apporter le jour de la résidence ou des premières répétitions avec une grande formation ou un grand orchestre, quel qu'il soit, les partitions, de les poser sur le pupitre et de dire « bon, allons-y, vous allez découvrir ma musique ». Une situation assez solitaire finalement et parfois un peu difficile à aborder ou à affronter. Enfin, pas affronter.
Vous avez eu envie de tenter d'autres expériences.
Voilà, j'ai eu envie de tenter d'autres expériences. Et c'est en cela que celle d'avec Guillaume, quand il m'a proposé, tout de suite j'ai accepté, parce que je savais que c'était un vrai travail d'aller-retour, de ping-pong sur la musique. Voilà, lui proposer, lui faire écouter et avoir des retours pour avancer. Et dans le dernier projet que j'ai enregistré, qui est consacré aux musiques traditionnelles du Maghreb, le projet s'appelle Nights au pluriel, in Tunisia.
On revient à Dizzy Gillespie.
Voilà, on revient à la boucle est bouclée. Ouais. Ce qui m'a séduit dans l'idée, c'est qu'il y avait une amorce du projet qui avait été réalisé par le tromboniste Geoffroy de Mazur et le violoniste tunisien, pour le coup proche des musiques traditionnelles Jasser Hajioussef. Et ce qui m'a séduit, c'était la possibilité dans ce projet de le faire vraiment à trois.
Ce qui veut dire que votre partie, c'était vraiment de l'orchestration ou que tout était partagé ?
Ça a été partagé suivant certaines pièces. Sur certaines pièces, j'ai été plutôt orchestrateur, voire arrangeur. Mmh. Et aussi, j'appelle ça scénariste, mais c'est pas... Enfin, voilà, m'occuper de la forme du
morceau. Pianiste, accessoirement.
Voilà, et pianiste, bien sûr. Et sur certaines pièces, j'ai collaboré sur la composition, le développement de la composition. Mais on a eu un vrai travail à plusieurs où on se pose les questions qu'on se pose souvent tout seul. Là, on se les est posées à deux ou à trois. Et c'était ça qui était assez passionnant, j'ai trouvé. En tout cas dans cette démarche.
C'est tout chaud puisque le disque est paru hier, c'est chez Crystal, ça s'appelle donc Nights in Tunisia, et on écoute Ramsa, une composition que vous avez co-signée, Jean-Christophe Chaudet, avec Jasser Hajioussef et Geoffroy de Mazur.
ساعات في الراي مشكور ساعات في الراي ساعات في الراي مشكور ساعات على غير حالة ساعات ساعات لا لا ولا لا ساعات
Merci beaucoup Jean-Christophe Chollet d'être venu ce matin dans cette émission pour évoquer les relations entre le jazz et les musiques traditionnelles. Je rappelle donc la sortie de ce disque avec votre ensemble Diagonal. Le disque s'intitule Nights in Tunisia chez Crystal. Il est paru hier. Les prochains concerts, ce sera à Montargis le 23 novembre et puis à Paris au New Morning deux jours plus tard, le 25 novembre. Merci à Julien Douminc et Cécile Braque pour la prise de son. Léo Duroy a accordé le piano. Dorothée Gold m'a aidé à préparer cette émission que Christine Amado a réalisée comme chaque semaine. Mardi prochain, mon invité sera le pianiste Stéphane Sapis. Nous évoquerons non pas directement Thelonious Monk, nous l'avons déjà fait avec Laurent De Wilde, mais les monkiens et le monkisme. Soyez à l'écoute à 11h mardi prochain. Demain, c'est mercredi. Philippe Cassard vous propose dans le Matin des musiciens une émission autour du Nocturne Opus 33 numéro 1 en mi bémol majeur de Gabriel Fauré. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission sur francemusique.fr, le site de France Musique, et vous pouvez également vous abonner au podcast.